Bonjour à tous et un grand merci à Madame Surprenant et aux organisateurs de m'avoir invité. Et oui, le livre qui va paraître a un titre très ambitieux. J'essaierai d'être à la hauteur de cette ambition. En tout cas, il s'appelle « La civilisation judéo-chrétienne, le mythe fondateur du monde démocratique ». Et Adolphe Franck se trouve être un des acteurs de ce récit. Monsieur Compagnon disait tout à l'heure qu'on ne parlait pas assez du christianisme, de la religion majoritaire. J'ai un peu trouvé la parade, puisque je parle du judéo-christianisme, un petit peu des deux. Ce n'est pas qu'une boutade, je vais essayer de le montrer. Je remercie aussi les organisateurs, parce que ce sujet de communication, consacré à une chaire qui a vécu durant 100 ans dans cette institution, de 1773 à 1977, la chaire du droit de la nature et du droit des gens, va dessiner une forme d'histoire de la pensée, une forme d'histoire très française de la pensée. C'est ce que j'aimerais vous montrer. Et son histoire, l'histoire de cette chaire est en elle-même très intéressante. Au départ, il s'agit d'une chaire de droit canon qui va être transformée en une chaire du droit de la nature et des gens en 1773. Puis cette chaire, près d'un siècle plus tard, en 1877, après la mise à la retraite de celui dont je vais vous parler, Adolphe Franck, qui a été un peu déjà évoqué tout à l'heure, va être transformé à nouveau en une chaire de psychologie expérimentale comparée. Et à la réalité, même si cette chaire a connu un destin hésitant au cours du XXe siècle, c'est bien cette chaire dont se réclame l'actuel détenteur de la chaire expérimentale cognitive, Stanislas Dehaene. On voit d'ailleurs le même terme, chaire expérimentale. Et quand je regardais le parcours de cette chaire, donc qui est passée d'une chaire de droit canon, chaire de droit de la nature et droit des gens, chaire de psychologie expérimentale, j'avais l'impression que ça dessinait les trois âges dont parlait Auguste Comte. Alors, les trois âges dont parlait Auguste Comte, qui sont familiers sans doute à beaucoup d'entre vous, c'est l'idée que l'histoire traverserait des âges successifs. Un premier âge qui serait l'âge théologique, où l'homme verrait l'action de la divinité partout. Ça correspondrait un peu à ma chaire de droit canon, si j'ose dire, à un monothéisme chrétien, puisque l'homme, après voir des dieux partout, se tournerait vers une forme de polythéisme, puis une forme de plus en plus subsumée de divinité vers le monothéisme. Le monothéisme lui-même, le terme, s'impose au XIXe siècle. C'est pas comme ça que les juifs et les chrétiens s'identifiaient. Ils s'identifiaient comme une monarchie chrétienne. Donc ça correspondrait au premier moment, si vous voulez, de cette histoire selon Auguste Comte. Le second moment, la chaire de droit de la nature et des gens correspondrait à ce qu'Auguste Comte appelait l'âge métaphysique, c'est-à-dire l'âge des concepts. Et on pourrait dire, en forçant un peu le trait, que la Révolution française incarne en grande part cet âge métaphysique. La Révolution française se constitue autour de l'idée de droit naturel des hommes, de droit naturel à être libre. La Déclaration française, la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration française des droits de l'homme et des citoyens dit que tous les hommes sont nés libres et égaux. Elle ne dit pas qu'ils sont créés, contrairement à la Déclaration. C'est une forme de récit des origines, finalement, à la Déclaration américaine. Mais elle évoque quand même l'être suprême. Donc Dieu devient une idée, une abstraction. Et puis, on passe à la dernière chaire. Qui va être donc un siècle plus tard, la chaire expérimentale est comparée. Là, on est dans l'ère de ce que Comte, et on est assez proche, au moins au niveau de la méthode, de ce que Comte appelait l'ère positive, c'est-à-dire l'ère où on se fonde sur des phénomènes. Et c'est ça que prétendent les pionniers de la psychologie expérimentale. On n'étudie plus une psychologie subjective qui varierait avec chacun des individus. C'est ce qu'on pensait alors, qu'il était impossible d'analyser la pensée puisqu'elle était différente selon les individus, à une analyse expérimentale de la pensée, à une analyse de ce qu'on va appeler des états de conscience. Et Dieu sort du champ du savoir. Dieu, l'âme, apparaissent comme des notions métaphysiques. On passe de la pneuma à la psyché, donc d'une idée métaphysique de l'esprit à une idée, on pourrait dire, expérimentale, ou en tout cas qu'on peut expérimenter. Le fondateur, le grand nom de cette science nouvelle, étant William James, pour qui toute observation d'un objet pouvait se traduire dans un état unique de la conscience. On pouvait matérialiser le flot, ce qu'il appelait le flot de la pensée, et comparer la pensée à un oisillon qui irait d'endroit à endroit, pour décrire justement cette idée d'un flot de la pensée. Donc l'idée d'une histoire qui serait une succession de phénomènes, une succession de causes. La chose qu'il faut dire, c'est que cette chair qui naît en 1887, donc une fois que Adolphe Franck, dont je vais parler, prend sa retraite, est une chair contrariée, si j'ose dire. Ce n'était pas du tout le souhait d'Adolphe Franck. Et là, on va voir les différentes dimensions, si j'ose dire, de l'institution, de la succession des chaires, de la construction des chaires dans l'université. Adolphe Franck voulait son propre disciple, Henri Joly, qui était comme lui, un mouvement dont je vais parler aussi, qui était comme lui un disciple du spiritualisme, l'idée que l'esprit était incarné dans une substance, était une réalité. Et ce candidat ne va pas être élu par l'Assemblée, qui va lui préférer un autre candidat, qui a alors un cours de psychologie expérimentale au Collège de France, le tout premier du nom, il est d'ailleurs chargé de cours, on n'ose pas créer un cours pour lui, qui s'appelle Théodule Ribaud. Théodule Ribaud obtient les deux tiers des votes de l'Assemblée. À cette époque-là, je vous avoue que je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais à cette époque-là, il y avait un premier vote au sein de l'Assemblée des professeurs, puis un second vote par les membres de l'Institut. L'Assemblée des professeurs vote pour Théodule Ribaud. L'Institut, qui est dominé par ses spiritualistes, notamment par Adolphe Franck, met son veto, s'y oppose. Et la décision va revenir au ministère, à Louis Liard, qui, sous la férule de Renan, qui est alors administrateur du Collège de France, va imposer la nouvelle chaire. Alors, sous quel prétexte, ou sous quelle raison, il va imposer cette nouvelle chaire? Il impose, je le cite, au nom de la science qui est en train de se faire. Il y a à la fois donc, l'idée d'imposer une nouvelle science, la psychologie expérimentale, et de ne pas être à la traîne par rapport aux autres États, et notamment par rapport à cette science expérimentale qui se développe aux États-Unis. Et William James est très lié à Théodule Ribaud. Lorsqu'on lit la correspondance entre les deux hommes, Théodule Ribaud lui parle de son combat comme le combat d'une cause. Il faut défendre la cause de la psychologie expérimentale. Et le droit de la nature, comme il nous apparaît encore aujourd'hui, apparaît à ces hommes-là comme un terme suranné, un terme qui sent son Grotius, son Pufendorf. Ces deux noms-là, c'est des noms du théoricien de ce qu'on a appelé le droit naturel moderne, un droit naturel qui tend à se fonder sur la raison seule, pour résumer très sommairement, selon une expression de Grotius qui est très connue, penser la nature de l'homme comme si Dieu n'existait pas. Et c'est précisément, comme je l'ai dit, cette discipline qui va être confié à Stanislas Dehaene en 2005, donc l'actuel détenteur de la chaire de psychologie expérimentale cognitive. Et d'une certaine manière, Stanislas Dehaene reprendra un programme qu'on pourrait presque appeler positiviste. En tout cas, il y a des élans très positivistes dans son programme. Je vous cite la dernière phrase de sa leçon inaugurale au Collège de France. Il dit qu'il est heureux de vivre dans un temps où les progrès de la psychologie et de l'imagerie médicale nous permettront de pénétrer, comme dans un crâne ouvert, c'est son expression, l'invisible de la pensée. Et cette phrase ferait sans doute très peur, effraierait sans doute notre Adolphe Franck. Et il serait peut-être rassuré aussi de se dire qu'on n'y est pas encore. On n'a pas encore réussi à retracer l'invisible de la pensée. Il ne parle pas. Stanislas Dehaene ne parle pas de dame, il ne parle pas de Dieu, il parle de conscience. Et comment il définit la conscience? Comme une sortie de l'état de veille, comme un état de vigilance. Il semble donc que ce droit de la nature et ce droit des gens quelque chose de vieillot, de suranné. Mais ce qui est intéressant, c'est quand la chair a été créée, elle est plutôt conçue comme une chair moderne. C'est plutôt une manière, là aussi, si j'ose dire, de se mettre au diapason d'une science ou d'un courant de pensée qui est présent dans la plupart des capitales européennes. C'est ce que vont dire ceux qui défendent le projet. Ils vont dire qu'il existe des chaires du droit de la nature, dans différentes villes, même en Suède, en Allemagne, etc. La première étant été donnée à Pufendorf en 1672. Hein. Droit de la nature et droit des gens, c'est le titre d'un de ses ouvrages. Et que la France n'a pas de chaire. Et c'est intéressant aussi de voir que Louis XVI, qui donne son accord au projet, va exprimer très vite ses réticences. Il va se dire qu'il y a quelque chose peut-être de dangereux dans cette idée de droit de la nature. On pourrait dire que la Révolution, il n'y a pas totalement donné tort. Donc ce droit de la nature, qu'est-ce donc? Un droit qui apparaît suranné aujourd'hui, mais qui a pourtant un potentiel vraiment révolutionnaire. Alors, avant de répondre à cette question, je vais encore me référer à un autre professeur actuel du Collège de France, qui va être un des rares à se référer à ce droit de l'histoire de la nature et du droit des gens. Il s'agit de Philippe Descola, qui s'est vu confier une chaire d'anthropologie de la nature. Et dans sa leçon inaugurale, il évoque cette chaire de droit de la nature et droit des gens. Et il la définit ainsi, par une expression qui me semble un peu vague, ou en tout cas je l'ai trouvé vague, vous me direz ce que vous en pensez. Il dit que c'est un mélange de philosophie morale et d'histoire des institutions, un mélange qui préfigure l'anthropologie sociale. Alors, ce qu'il entend par là, c'est que le droit des gens a tracé une rupture nette entre les sciences de la nature et les sciences de la culture. Et il envoie le principal témoignage dans la division qui existe au début du IXe siècle entre, d'un côté, l'histoire naturelle qui est confiée à Cuvier et cette chaire, justement, du droit de la nature et du droit des gens. Donc il y aurait là une forme de, selon Descola, dans sa vision, une forme de péché originel, une division qui est une forme de péché. Pourquoi ? Parce qu'on sépare la science de la nature, la science qui étudie les phénomènes physiques, la science de la vie, et la nature humaine. Alors que pour lui, la nature humaine est une fiction totale. On sépare les sciences de la nature et les sciences de la culture. Et il se demande d'ailleurs, qu'est-ce qui se serait produit si on n'aurait pas gagné du temps, si Alexander de Humboldt, qui est pour lui l'un des précurseurs, sinon le précurseur de l'anthropologie, n'avait pas été nommé au Collège de France lors de son passage à Paris. Pourquoi ? Parce que cette division entre nature et culture, ce qu'il appelle dans ses termes à lui l'ontologie naturaliste, est à l'origine évidemment d'une distinction très au moins malheureuse, et le terme est évidemment léger, entre colonisés et coloniaux. Soit l'idée qu'il y aurait des peuples plus proches de l'état de nature et des peuples plus civilisés, voire même qu'il y aurait des peuples, et là j'emprunte une expression qui peut faire bondir aujourd'hui, mais qui est employée par Condorcet disant dans son esquisse des progrès de l'histoire humaine qu'il est possible de laisser disparaître certains peuples s'ils s'opposent à la marche de la civilisation. Donc évidemment qu'il y a une histoire, on pourrait dire, funeste de cette conception de la nature humaine comme absolument singulière, comme opposée au reste du monde. Mais il y a aussi une histoire plus heureuse, si j'ose dire. C'est au nom de cette conception du droit naturel, au nom d'une nature unique de l'homme, au nom d'une égalité entre les hommes par nature, que l'émancipation des Juifs a été possible. L'émancipation des Juifs, l'égalité entre les Juifs et les chrétiens n'avait pas été pensable sous les régimes de tolérance précédents. Il s'agissait d'une liberté de conscience, au sens d'une liberté du fort intérieur, mais pas d'une liberté, d'une égalité entre citoyens, pas d'une liberté de conscience au sens d'une égale liberté. J'ai exactement le même droit que toi. C'est ça qui distingue le droit du privilège. Et c'est tout à fait intéressant et fascinant que ce soit justement un juif qui incarne sans doute les avancées du droit naturel, qui a été nommé comme dernier titulaire de cette chaire d'histoire du droit de la nature et d'histoire du droit des gens. Il s'agit d'Adolphe Franck. Adolphe Franck qui... Et il faut quand même le souligner, le premier juif à être agrégé de l'université. Il est reçu alors par celui qui domine l'université sous la monarchie de Juillet, qu'on va qualifier de philosophe de régime, qui domine vraiment toutes les institutions, Victor Cousin, qui l'accueille en lui faisant deux recommandations. Il lui dit, d'une part, alors c'est des mots rapportés, que quand, c'est pas une recommandation, mais simplement une remarque, que quand il a été accueilli, c'est la philosophie tout entière qui a été sécularisée. Et là, on va le voir, c'est une formulation tout à fait typique du système des cultes reconnus, hein, ce système qui existait avant la loi de 1905. Quand on parle de non-reconnaissance des cultes en 1905, c'est parce qu'il y avait une reconnaissance des cultes avant. C'est aussi le premier juif à être admis à l'Institut de France en 1844, dominé par Cousin et son école, par les Cousiniens. C'est aussi le premier juif à être professeur au Collège de France, avant Munch. Il est d'abord chargé de cours, de ce cours d'histoire du droit de la nature et des gens, avant d'être titularisé, de devenir professeur titulaire, et pendant près de 30 ans, donc de 58 à 1887. Et c'est donc un philosophe qui est nommé au Collège de France. Et c'est là aussi un symbole, parce que pour les juifs du temps, je l'évoquais un peu tout à l'heure, la philosophie, c'est la discipline juive par excellence. On ne compte pas les écrits de juifs français, surtout, qui disent qu'ils doivent leur émancipation à la philosophie. Et c'est aussi la discipline à laquelle ils ont eu le plus de mal à accéder. Là aussi, il y a beaucoup de témoignages durant la Restauration, donc bien après la Révolution qui a donné la citoyenneté aux Juifs, où des Juifs qui ont obtenu même l'agrégation sont empêchés d'enseigner par le clergé local. Et c'est véritablement la monarchie de Juillet, hein, qui va libérer l'étau. On va voir les premiers, on a beaucoup d'exemples comme ça. Donc une égalité à l'emploi qui est formelle, mais qui en l'occurrence n'a pas été réelle. Donc c'est tout un symbole qu'il s'agisse d'un juif. Et j'ose même dire, je vais essayer de le montrer, un philosophe qui est presque autant judéo-chrétien, imprégné de culture chrétienne, que juif. Et derrière ça, il y a un certain récit de la modernité. Donc ce que j'aimerais faire ici, c'est de montrer en quoi cette chaire d'histoire du droit de la nature et du droit des gens, telle que Adolphe Franck l'a incarnée, incarne un moment central dans l'histoire de l'esprit, ou de l'esprit français, si j'ose cette expression entre guillemets. Un moment dont on pourrait retracer l'origine chez Maine de Biran, à qui on doit le terme spiritualisme, un terme d'ailleurs qui disparaît hein, en 1935 dans les dictionnaires de l'Académie française, comme le terme de spiritualiste, donc qui va apparaître en 1830, hein, qui vraiment incarne un siècle de la pensée française. Donc en quoi ça incarne une histoire de la pensée qui irait de Cousin, de Maine de Biran et Cousin, à Bergson. Bergson qui va employer le terme de judéo-christianisme, surtout évidemment, dans le dernier Bergson. Le Bergson des deux sources de la morale et de la religion qui est écrit dans 1932. Et le climat, le contexte de l'époque, le contexte y compris politique, y a son importance. Et je voudrais montrer aussi en quoi Adolphe Franck a construit, pas consciemment, hein, il y croyait, un récit plus large de la modernité. C'est ce que j'ai étudié, c'est-à-dire ce que j'ai appelé la civilisation, ce qu'on appelle la civilisation judéo-chrétienne, qui s'opposait à un autre récit de la modernité, qui était celui de la civilisation chrétienne, l'idée que le christianisme contenait en germe l'histoire de la civilisation. Puisqu'au XVIIIe siècle, je le rappelle, le mot de civilisation s'emploie sans épithète. Il n'est lesté d'aucun épithète. Il s'emploie tout seul. On ne parle pas de civilisation chrétienne. On ne parle pas de civilisation judéo-chrétienne. On ne parle même pas de civilisation occidentale. Là, c'est vraiment ce que les Anglais appelleraient une world history, une histoire simplement des mots. Alors, je vais essayer de tracer cette histoire, de retracer cette histoire en trois temps. Je suis désolé, il n'y a pas de magnifique titre en gros. Le premier temps, ça sera de comprendre ce qu'est le spiritualisme français. Et j'ai intitulé cette partie « Science spirituelle et science positive », parce que les spiritualistes voulaient incarner une certaine idée de la science. Le dictionnaire que dirige Adolphe Franck s'appelle le dictionnaire des sciences philosophiques. Donc, science naturelle et science positive. Dans un deuxième temps, j'essaierai de montrer en quoi il s'agit d'une pensée, j'ai voulu faire un jeu de mots, mais qui n'est pas non plus tout à fait un jeu de mots, d'une pensée laïque au sens religieux du terme. C'est-à-dire, retracer les complexités de ce qu'on a appelé, hein, il y a déjà une historiographie là-dessus, une laïcité religieuse. Et en l'occurrence, je crois, une laïcité judéo-chrétienne. En quoi Franck va défendre une certaine conception française des relations entre les Églises et l'État, qui n'est pas celle de la séparation, une histoire de la laïcité avant la laïcité. Et en quoi, surtout, il va penser cette histoire des relations entre les Églises et l'État comme un modèle universel. Pour lui, le système qui existait alors, celui du concordat, qu'il voudrait généraliser l'usage, des concordats, devrait être le modèle universel des relations entre l'Église et l'État. Donc on a bien toujours cette prétention universelle. En un dernier temps, j'essaierai de voir en quoi il s'agit d'un récit de la modernité démocratique. Donc, dans un premier temps, je vais m'intéresser au rapport qu'il y a entre le spiritualisme, ce courant que je n'ai pas encore vraiment défini, qu'incarne Franck. Hein, Franck a pu être appelé un orthodoxe de la pensée cousinienne, et la science positive. Et je vais essayer de définir ce courant en étudiant ce qu'on pourrait appeler un cas d'école. Ce cas d'école, c'est cette guerre de succession qui s'est produite justement après la succession d'Adolphe Franck, entre justement le spiritualisme et Théodule Ribot, qui va être en charge donc, de la nouvelle chaire de psychologie expérimentale. Et cette question va tourner en particulier autour d'un thème, celui de l'hérédité. L'hérédité, ce que Ribot va appeler l'hérédité psychologique, c'est le thème de la thèse de Théodule Ribot. Et Franck est présent, est un membre du jury de cette thèse, qui est soutenu, si ma mémoire ne me trompe pas, entre... Alors, c'est 1872, je crois, mais peut-être c'est 1877, excusez-moi, dans les années 1870. Donc, une dizaine d'années avant qu'il obtienne la chaire. Et Franck a une réaction quasi épidermique à cette thèse. Il va dire que l'hérédité n'existe pas, qu'elle est une insulte à la liberté humaine, qu'elle est une insulte au pendant de la liberté, qu'est l'idée de devoir. Car la liberté est ici pensée, en continuité avec donc, la Déclaration des droits de l'homme, comme une égale liberté. Autrement dit, je suis libre dans la mesure où mon prochain est libre. C'est une liberté donc, de ne pas être soumis, mais aussi un devoir de ne pas soumettre. Et pour lui, l'hérédité met en péril cette conception même de la responsabilité humaine, ce que Lévinas appellera plus tard la responsabilité pour autrui. Idée qui ne peut que découler à ses yeux de l'amour de Dieu, c'est-à-dire de l'idée de personnalité de Dieu, je vais y revenir. Et durant cette thèse, Ribot avait prononcé une phrase qui avait certainement suscité l'ire de Franck. Il avait dit, et on rejoint un thème qui a été déjà évoqué par M. Laurence, que la race sémitique, je le cite, était incapable, donc il prenait l'idée de Renan, était incapable de spéculation, incapable de pensée abstraite. Alors pour Renan, M. Laurence l'a dit, la race n'était pas équivalent à une race physiologique, c'était pas défini par des traits du visage ou des traits ou des caractères physiologiques. C'était entendu largement comme une notion qui reposait sur la langue, qui reposait sur l'étude des textes, on pourrait dire historico-culturelle, aussi fondée sur, on pourrait appeler, une certaine idée d'un rapport à la terre. Mais quand on lit l'idée de race sémitique à l'hérédité, là on rentre dans le domaine physiologique. Et la question que se pose Ribot, il se fait là plus un disciple de Spencer, qu'il admirait beaucoup, que de son maître, que j'ai déjà évoqué, William James, ou même que de Darwin d'ailleurs, c'est qu'il y a des lois donc physiques de l'hérédité, hein, on a les yeux bleus, etc., parce que c'est les parents, donc il y a des traits physiques, mais il y a aussi des traits moraux de l'hérédité, ce qu'il appelle des lois sociales de l'hérédité, des lois morales et des lois sociales. Et il va jusqu'à dire que, et je me demande si c'est pour ce type de phrase que Stanislas Dehaene ne l'a pas cité dans sa présentation, qu'il y a une différence dans la taille du cerveau, et il lie la taille du cerveau à l'intelligence, entre les peuples civilisés, les peuples intelligents, entre guillemets, et les sauvages. Alors que Darwin avait dénié toute idée de toute corrélation, même entre la taille du cerveau et l'intelligence. Et Darwin s'était toujours montré très, très prudent à l'égard de cette idée d'hérédité, en disant que parfois elle avait des conséquences fortes, parfois non, et en n'essayant pas d'élaborer des lois autour de l'hérédité. Et là, il me semble qu'on touche à l'une des différences, et j'adopte volontairement le point de vue des spiritualistes, entre le spiritualisme tel que Adolphe Franck va le penser et l'incarner, et le positivisme. Et dans une conférence très tardive, à la toute fin de sa vie, intitulée « Dieu dans ses rapports avec la science », Adolphe Franck va expliquer cette différence. Il nous dit au fond que ce qui le gêne dans le positivisme, ce contre quoi il lutte, ce n'est pas la méthode positive en elle-même. Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler le positivisme en petit, si j'ose dire, c'est-à-dire cette méthode qui consiste à étudier les phénomènes et à interpréter, à chercher les causes qui les suscitent. Mais c'est ce que le positivisme produit en grand sur la perception plus large de la science. Elle produit, en premier lieu, dit-il, une sédimentation, une fragmentation de la science, alors que les scientifiques jusqu'à Kant, les scientifiques du XVIIIe siècle, se pensaient autant en tant que métaphysiciens, donc ils se posaient autant la question des origines et des fins dernières de l'homme, des causes efficaces et des causes efficientes, pardon, et des causes finales, qu'à l'étude de la science de la nature proprement dite. Il prend l'exemple de la chimie, où les chimistes se replient sur leur domaine, etc. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a même une sédimentation encore plus grande, que ce que François Doss a appelé l'histoire en miettes pourrait s'appliquer à toutes les disciplines. Et la deuxième critique qui va découler de cette première critique, c'est celle-ci. C'est de chercher quelle est, au fond, la croyance qui sous-tend la science positiviste. Car pour lui, il y a une croyance. La science positiviste, comme Renan, les positivistes, comme Renan, qui se veut positiviste au moins dans la méthode, rejette toute idée du surnaturel. On va rejeter toute idée d'âme au sens métaphysique du terme et de Dieu, etc., en l'écartant du champ du savoir. Mais dit-il, si on généralise le raisonnement de la science positive, donc celui du déterminisme des causes, à l'ensemble de la science, c'est au panthéisme sur lequel on débouche. C'est-à-dire cette idée que Dieu est confondu avec le monde, que même Dieu n'est pas libre de ses mouvements, que même lui est déterminé, si j'ose dire, que le monde est régi par une série de lois dynamiques, une série de déterminismes auxquels Dieu même n'échappe pas. Donc, le positivisme que Kant présentait comme un âge nouveau de l'homme a lui aussi ses traditions. C'est une idée très forte dans l'idée spiritualiste, qu'il y a toujours une origine à une pensée qui se présente comme nouvelle. Et cette origine, ce serait le panthéisme. Alors à quoi il rattache, à quelle spiritualité il rattache le panthéisme ? Et cette idée, qui n'est pas nouvelle évidemment, va avoir cette opposition, pardon, entre panthéisme et spiritualisme, et monothéisme, va avoir une postérité au moins jusque dans l'entre-deux-guerres. Il va relier le panthéisme à des croyances qu'il appelle orientales. Et il songe en particulier, on l'a évoqué ce matin, aux religions de l'Inde ancienne, auxquelles se rattachent évidemment les partisans d'une généalogie indo-européenne, de la civilisation européenne. Une religion qui résume à très gros traits, qui serait une religion de l'évolution constante, une religion dont il trouve même les racines dans la Grèce ancienne, en citant Héraclite, pour qui, alors je cite la citation de Substance, « la seule chose d'absolu, c'est que tout est relatif ». Et pour lui, on va retrouver cette idée d'évolution, d'impermanence des choses, aussi bien dans ce qu'il appelle l'évolutionnisme que dans l'éternel retour de Nietzsche, que évidemment tout ça résumé dans cette idée de panthéisme. Et tout cela, il le voit comme des atteintes au principe de la personnalité humaine, comme étant à l'image de la personnalité de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on entend, et c'est le dernier point de cette partie, qu'est-ce qu'il entend par personnalité ? Dans un texte, Jules Lachelet, le philosophe Jules Lachelet, dira que le principal apport de la philosophie spiritualiste, c'était ce concept de personnalité, un concept qui donnera le nom, d'ailleurs, du premier cours de Bergson sur la personnalité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par personnalité ? On n'entend pas, pour les spiritualistes, c'est une notion qui est autant morale que politique. Ce n'est pas simplement l'égalité morale des individus, mais c'est bien l'idée de droit de la personne humaine, ce qu'on appellera bien plus tard, qui n'est pas dans la Déclaration des droits de l'homme, une égalité en droit et en dignité. Et peut-être nul spiritualiste n'insiste plus que Franck sur cela. Franck ne se reconnaît ni dans la religion du cœur, qui est celle de Renan, dont il verra la trace chez les prophètes d'Israël, qui réclament au peuple d'être circoncis de cœur, ni dans la religion de Constant, de Benjamin Constant, qui avait écrit une très grande étude de la religion dans les années 1820. Donc ce n'est pas simplement une religion, on pourrait dire, du sentiment personnel, ou même une religion de l'humanité. Il s'opposera d'ailleurs à toute idée de religion nouvelle, celle de Comte comme toute autre idée de religion qu'on trouvera entre juifs et protestants libéraux au cours du siècle. Car pour lui, d'une part, on ne peut pas créer une religion comme cela. Alors, il dit que la religion est le pain spirituel dont non seulement les pauvres, mais tous les hommes ont besoin. Et cette religion a aussi comme véhicule l'autorité. Elle ne peut pas être uniquement une religion rationnelle, et pour lui, évidemment, c'est une forme de topos de dire ça, la déchristianisation, donc l'épisode du culte de l'être suprême sous la Révolution a été la manifestation des incapacités de cette religion de la raison. La deuxième raison, à mes yeux, pour laquelle il ne croit pas en une religion personnelle ni en une nouvelle religion, c'est qu'il a déjà, on pourrait dire, sa religion nouvelle. Et ça, c'est tout à fait typique du discours de ce qu'on a appelé le franco-judaïsme. Sa religion nouvelle, c'est la Révolution. Et il le dira bien souvent, et là il se fait l'écho de très nombreux rabbins, de très nombreux penseurs juifs, qui disent que la Pâque juive, le Pessah en hébreu, donc la libération, c'est la révolution. C'est la révolution qui a inauguré l'âge messianique. La déclaration des droits de l'homme et notre nouvel évangile, on va trouver ça chez de très nombreux penseurs juifs. Et quelle est l'idée centrale? Quelle est la liberté fondamentale que met au cœur la Révolution à ses yeux? Et ça aussi, c'est assez commun à beaucoup de penseurs en France, aux patriotes américains et français. C'est la liberté de conscience, hein, bien plus que l'idée de droit de la propriété. La liberté de conscience doit être, dit-il, la religion commune à tous. Il dit que c'est la condition du dogme de... Je ne vois pas du tout... il ne me reste pas beaucoup de temps. Combien? 5 minutes, sérieusement? Ouh là là. Alors, on va aller très très vite. Je suis désolé. Alors, on va résumer. Donc, la liberté de conscience est pour lui la condition d'existence des religions, la condition qui permet aussi bien à ceux qu'il appelle les partisans du dogme de l'infaillibilité pontificale que les partisans du dogme de la libre pensée de coexister entre eux. Et il va développer à partir de là une pensée de la laïcité. C'est un penseur des concordats. Pour lui, la séparation des églises et de l'État, qu'il observe aux États-Unis, est un système immoral. Alors, il y a une pointe d'antiprotestantisme là-dedans. Il dira, il y aura des formules disant, par exemple, que ça transforme les religieux en marchands. Chacun vend sa religion, comme de la pacotille. Pourquoi? Parce que la religion n'est pas soumise à un contrôle, n'est pas soumise à un contrôle qui était aussi une manière de lui donner une certaine dignité. Et le concordat lui apparaît comme la manière universelle de régler les relations entre les églises et l'État, mais pas n'importe quel type de concordat. Un concordat qui impose à chaque religion la liberté de conscience. Et quel exemple il peut... On peut ainsi, pour lui, admettre une religion nouvelle. Et quel exemple il donne? Le judaïsme. Le judaïsme, en 1801-1802, n'a pas été reconnu par Napoléon. En 1802, Napoléon prononce une loi connue qui s'appelle la loi sur les cultes. Cette loi s'intéresse au judaïsme et à certaines confessions protestantes. Elle ne s'appelle pas loi sur les cultes chrétiens. Elle s'appelle loi sur les cultes. Ce qui est défini comme culte, c'est uniquement les confessions chrétiennes. Et le judaïsme passe une forme d'examen d'entrée. On va lui poser un certain nombre de questions pour montrer justement que ces dogmes s'appuient sur la liberté de conscience. Donc on voit bien que son dogme premier, c'est l'idée de la liberté de conscience. Et puis, j'ose dire, et là je vais vraiment très vite, mais je pourrais préciser dans les questions, qu'il peut préfigurer une forme de ce qu'on a pu appeler dans les dernières décennies une laïcité de reconnaissance. Alors je m'explique, hein, ça peut pas apparaître comme un grand anachronisme. Il va écrire un projet de constitution. Dans ce projet de constitution, il imagine que la France serait régie par deux chambres. Une première chambre qui serait élue par l'ensemble de la nation et une autre chambre qui serait régie par les intérêts de la nation, les intérêts supérieurs de la nation. La première chambre serait soumise aux aléas de l'opinion publique et la deuxième chambre incarnerait cette idée d'intérêt généraux et parmi eux, à ses yeux, l'intérêt de la religion. Et en disant qu'elle ne serait pas... On pourrait l'interroger sur des cas particuliers, pas sur toutes les questions, pas sur les questions qui auraient trait à la vie nationale. Des questions qu'on pourrait peut-être appeler sociétales décrivant à gros traits le sens de cette... J'aimerais évoquer très rapidement, hein, je vais aller très très vite en conclusion, donc, en quoi il est à l'origine d'un nouveau récit de la modernité. L'idée de civilisation judéo-chrétienne, c'est une idée qu'on trouve au fond chez Chateaubriand en 1802. Chateaubriand écrit « La civilisation a marché uniquement dans les pas de l'Évangile ». Ni la religion de Brahma, ni celle de Mahomet, ni celle de Confucius n'ont été des freins au progrès de la civilisation. Elle n'est pas simplement donc la pensée d'un écrivain, elle est aussi la pensée d'un système, le concordat.
lorsque les Juifs sont assimilés au culte chrétien, ils sont assimilés en raison des concordances entre l'Ancien Testament, qui n'est pas, on l'a compris tout à l'heure, la Bible hébraïque, et le judaïsme. Donc il y a bien une détivation judéo-chrétienne. Et s'il y a une idée sur laquelle va insister toute sa vie Adolphe Franck, c'est la continuité entre judaïsme et christianisme. Il va ôter son chapeau, c'est le conseil que lui donnait Victor Cousin, chaque fois qu'il rencontrait cette figure qui était le fondateur du christianisme. Cousin lui disait, ôtez votre chapeau chaque fois que dans vos leçons vous rencontrez la figure du fondateur du christianisme, Jésus. Et il dira par exemple que Jésus, que la conception de l'amour selon le christianisme est plus haute que la conception juive de l'égalité. Mais il rappellera toujours que l'amour du prochain est inscrite dans le Tanakh, donc dans la loi juive, l'amour du prochain et l'amour de l'étranger. Et le dernier point sur lequel j'aimerais insister, c'est que dans cette idée de civilisation judéo-chrétienne, il n'y a pas simplement l'idée de continuité entre morale juive et morale chrétienne. Cette idée de monothéisme moral, comme on aura dans la pensée allemande, dans celle d'un Hermann Cohen à la même époque. Il y a cette idée que le judaïsme préfigure l'État, qu'il est d'abord, on pourrait dire, une politique, qu'il annonce une certaine forme de gouvernement des hommes. Et en l'occurrence, il n'hésite pas à dire que Moïse a créé une république religieuse. Donc il y a cette idée justement que, non pas le prophétisme, mais le mosaïsme est à l'origine de notre idée moderne du droit. Alors, c'est ça l'idée fondamentale dans la pensée française de la civilisation judéo-chrétienne. En tout dernier mot, j'aimerais dire pourquoi ce moment a été oublié de spiritualisme. C'est sans doute justement parce que cette idée de la laïcité a disparu. Et je pourrais développer si vous voulez, je vais très très vite. Et le dernier représentant à mes yeux, que j'ose définir comme un penseur judéo-chrétien, c'est Bergson, dans Les deux sources de la morale et de la religion. Bergson va dresser une véritable généalogie entre la supplication des prophètes et de Moïse pour la justice, l'élargissement qu'a constitué la pensée chrétienne vers une moralité universelle et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il emploiera d'ailleurs le mot de judéo-christianisme. Voilà, pardonnez-moi pour avoir dû raccourcir la moitié et la fin de cet exposé. Je vous remercie.